toi, Robert.
Ah, bonjour, Alexis. Des émissions intéressantes d'habitude, aujourd'hui particulièrement, parce que tu reçois ton mononcle.
Ben oui, Richard Kistabiche, un homme politique, un conteur, un défenseur de la Anishinaabemowin. Donc, on va avoir une belle conversation avec lui.
On aura en deuxième partie Xavier Watsau également pour...
Xavier Watsau, oui, un Abenaki de ma communauté.
Voilà. Toujours dans ta famille, plus ou moins élargie.
Hein? Je connais un peu de monde, oui.
C'est le milieu des Autochtones.
Avec quoi, Richard? On passe tout de suite à toi.
Oui.
Donc, on voulait t'avoir à l'émission parce que t'as un parcours assez remarquable. T'as grandi dans le bois. J'ai vu une vidéo à un moment donné de toi où tu racontais justement que c'était un peu le paradis, ta prime enfance.
Pas un peu, c'est le paradis.
C'était le paradis.
Ah oui, c'était les plus belles années de ma vie. Ça a été vraiment les 6 premières années de ma vie. On était toujours en mouvement, on était toujours libre. C'est extraordinaire ce feeling-là de pouvoir se déplacer sur le territoire, tu sais, tantôt très vite, tantôt très lentement, puis paresseusement, puis on était actifs aussi. C'était vraiment intéressant. Il y a eu des bons moments dans ma vie, tu sais. Puis ce sont des périodes que je chéris le plus parce que j'ai été instruit, j'ai été éduqué. Des valeurs de ma culture, de ma langue, de mon territoire, tu sais, puis je savais pas que cette période-là de ma vie allait être une source d'inspiration pour continuer les choses qu'on doit continuer de faire, soit en faisant de la politique et autres.
Ouais, puis en plus, toi, les autres générations qui t'ont suivi sont rares, ceux-là qui ont eu le privilège de pouvoir vivre sur le territoire comme tu as pu le vivre.
Oui, ils sont plutôt rares. Il y en a la majorité qui sont déjà malheureusement décédés, mais il y en a encore des gens qui ont connu ça. Puis ils sont comme un peu ignorés de la société. Il fallait que tu aies de la gueule en colline pour pouvoir percer cet isolement-là qu'on nous a fait subir.
Ouais.
Mais je trouve ça formidable, Richard, on va revenir aux exactions, mais quand vous parlez de votre enfance comme inspirante, comme votre éducation jusqu'à l'âge de 6 ans, il y a tellement de gens sur Terre qui passent le restant de leur vie à essayer d'oublier leur enfance malheureuse. Vous, ça a été tout à fait le contraire.
Tout à fait le contraire. Hein. C'est vraiment celui qui m'a donné toute l'énergie, la passion, la flamme reste encore bien forte, allumée, bien fort, puis plus j'avance dans les sujets dans lesquels je suis maintenant impliqué, plus le feu est fort, plus c'est vite. J'arrête pas de parler à un moment donné quand on me questionne sur ce quoi je fais maintenant. Parce que je suis vraiment passionné encore. On dirait que j'ai 16 ans.
Puis c'est ça, c'est à 6 ans qu'on t'a sorti du bois à peu près? Tu disais que c'était tes 6 premières années. On t'a sorti du bois vers 6 ans?
Je suis parti de la place. On m'a enlevé de la place à l'âge de 6 ans. J'ai eu 7 ans quand j'ai eu ma première année au pensionnat. Fait que c'est ça. C'est drôle qu'on se parle aujourd'hui de ça. Parce que j'étais allé faire un tour au pensionnat hier.
Ah oui?
Oui, je suis allé voir ça, puis la chose qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'était une bonne fontaine, tu sais, pour des incendies, là.
Ah ouais.
Il est caché dans le bois. les arbres ont pris tout le dessus de cette affaire-là, mais tout d'un coup, je tombe dessus sur cette patente-là. Puis je m'en souviens de cette place-là. Eh bien, tous les endroits, tout l'environnement dans lequel cette pompe-là, cet incendie-là était placé dans le temps, là, tu sais. Puis là, j'ai tout enlevé les arbres qu'il y avait alentour pour voir encore une fois plus la bâtisse, le pensionnat qui était là. C'est quand même assez particulier pour moi de me retrouver dans cette situation-là.
Est-ce que vous gardez de bons souvenirs de cette période de pensionnat ou si c'est moins intéressant que ce que vous viviez avant 6 ans?
Ben, mettons que les atrocités qu'on m'a fait subir m'ont servi d'énergie un peu plus tard dans ma vie. C'est sûr que ça n'a pas été bien ben fun pendant des semaines, des jours, surtout la première année. La première année était la plus dramatique. C'est celle qui m'a causé le plus de traumatisme à cause du changement trop soudain, sans savoir pourquoi que ça arrive, ces affaires-là. C'est ça qui était le plus dur à considérer, à vivre avec, à s'adapter, à essayer de domestiquer mes feelings par rapport à cet nouvel environnement-là. Ça n'a pas été facile.
Entre autres, par rapport à la langue, est-ce que tu parlais un peu le français avant d'arriver là?
Non.
C'était juste l'Anishinaabe Mohin, that's it, that's all.
Juste ça. Fait que la première phrase que j'ai dit en français, c'était « René joue avec son ballon ». Je comprenais absolument rien de ce que ça voulait dire. C'est apprendre une autre langue, un autre mode de vie, un autre endroit. Tu comprends pas. Tu comprends rien de ce qui se passe. Puis même si on te force à dire des mots, une chance que j'avais un peu de mémoire dans ce temps-là, puis je l'ai utilisé pour apprendre les mots en français. Tu sais. Comme la fameuse phrase « René joue avec son ballon », là. Je ne savais pas ce que ça voulait dire.
C'est comme si on avait remplacé dans votre vie le précieux territoire par une religion pas très sympathique, finalement.
Mais c'est ça, le processus de la dépossession territoriale. C'est quelque chose de heavy en colline. Ça a pris des années de procédure pour arriver à ça. Et le point culminant de ce processus-là, c'est enlever les enfants de leurs parents. C'est ça qui était le plus ignoble de toutes les choses qu'on a subies, c'est justement de nous faire couper de l'affection de nos parents, de notre lien de parents qu'on avait. C'est vraiment... c'est des crimes contre l'humanité, ça, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a subi là.
Un génocide, carrément.
Ben, c'est carrément ça. Il n'y a pas d'autre... Mais en plus, c'est que c'est tellement... C'est tellement insinueux, c'est tellement planifié, c'est tellement bien pensé, c'était un processus tellement détaillé, puis procédé avec leur conscience à eux, comme de quoi qu'à un moment donné, ces hosties d'Indiens-là vont disparaître, là, tu sais.
Mais on est encore
c'est
là.
C'est ça le but, c'est ça le but.
Est-ce qu'il y avait des moments, est-ce qu'il y avait des moments précis où vous pourriez, même pour un petit moment, un petit instant, retrouver le territoire et votre culture?
Ben, je pense que intérieurement, chaque enfant avait ce désir-là caché. Il fallait qu'on s'établisse chacun de nous-mêmes un système de défense.
Un safe space mental, mettons?
Un système de défense. Il faut que tu trouves une manière de te défendre par rapport à ça. Il faut empêcher l'envahissement de ton esprit par rapport à tout ce qui est en train de se produire alentour de toi. Donc, chaque personne avait un système de défense qui avait là-dedans. Moi, j'ai décidé de pour pas qu'on m'achale puis qu'on me tape dessus, je me suis décidé de me conformer.
T'étais bon à l'école.
Ah, j'étais bon en crèche à l'école, mais là, j'étais des premières classes quand j'ai quitté le pensionnat puis que j'allais à l'école à Saint-Viateur, à Amos, là, ouais. Tu sais, 9e année, 10e année, 11e année.
Tu étais tellement bon qu'on t'a même embauché.
J'étais meilleur que les blancs qu'il y avait dans la classe. J'étais le premier de classe, sacrement. C'était quelque chose à voir. Puis, le plus surprenant de dire, c'est que c'est moi-même qui étais surpris de voir comment est-ce que c'était facile. J'avais pas besoin de travailler fort. Les autres personnes, là, mes chums québécois qui avaient là, ils travaillaient fort dans leur devoir pour arriver à avoir une, une note qui pourrait faire une note de passage. Moi, là, j'avais comme abandonné un peu cette méthode-là, parce que là, je n'étais plus au pensionnat, donc je ne mangerais plus de coups, puis on n'avait plus de temps qui était destiné pour faire nos devoirs, puis toute la patente. Moi, je les faisais presque automatiquement, tout seul, sans effort.
Hey Richard, on va prendre une petite pause musicale. On revient après. On va parler de l'homme politique et du défenseur de la langue Anishinaabemowin.
OK.
C'était Elle danse de l'artiste Abenakis d'Odanak.
C'est joli, hein?
Oui, Mimi Obomsawin. Mimi Obomsawin, qui est une franco-ontarienne aussi de Sudbury.
Ah!
Oui, une bonne partie de notre gang, les Abenakis d'Odanak, qui habitent à Sudbury.
Richard, parlez-nous un peu de votre préoccupation de défendre langue et culture. Vous l'avez fait toute votre vie, hein?
Comme politicien, entre autres.
Ah, incroyable! Et t'es chef de bande, chef de plusieurs... Enfin, c'est... En avant du podium, hein?
Oui, sur le temps. Puis probablement que c'est dû à, justement à mon séjour que j'ai eu au pensionnat, dans lequel je voulais me défaire de toutes les affaires défendues, les affaires interdites. Parce que une fois que j'ai sorti du pensionnat, il me semble que j'avais retrouvé une certaine forme de liberté. Une liberté d'expression, à tout le moins, là, tu sais, je commençais à parler pas mal bien le français, là, tu sais, puis ça a été un avantage que j'ai utilisé beaucoup, que j'ai essayé d'améliorer aussi, en essayant d'éviter les petites pièces de la langue, comme sacré un peu. J'ai tendance à encore à avoir ça. C'est pas facile de me débarrasser de cette mauvaise habitude-là. Mais que veux-tu, c'est les habitudes des Québécois, ça, de sacrer, là. T'sais.
On prend ça pour... On se dit que ce sont des invocations, tu sais.
Des invocations. Et voilà. Ah ben, c'est ça, ça... J'ai toujours été un peu... comment je dirais-je? Vouloir améliorer la qualité de vie qu'on avait. Mmh. OK? Puis il y avait toutes sortes de problématiques dans lesquelles j'ai été confronté à améliorer, à utiliser, à mettre en place des services, à mettre en place des choses. Mais ça, c'était le côté politique qui était nécessaire à ce moment-là d'utiliser pour avoir accès à ces services-là, avoir accès à de l'argent, à des financements. On reçoit vraiment pas beaucoup d'argent quand j'y pense, hein, toutes les choses que j'ai faites là.
Ouais.
Il fallait être imaginatif, il fallait tricher, il fallait frauder, il fallait faire des choses en dehors des règles de l'art pour y arriver. On pouvait pas arriver avec ce qu'on nous donnait, c'était impossible. Il y a un programme qui existe, une politique de vos ministères des Affaires indiennes que j'avais appris, c'est que nous allons donner de l'argent aux Indiens pour qu'ils réussissent. Mmh. On va leur donner assez d'argent des fois pour qu'ils puissent croire que ça peut marcher, mais on va s'assurer qu'ils ne réussissent pas.
Juste assez pour survivre.
À peine pour survivre.
Et surtout leur prouver qu'ils ne sont pas capables.
Ben, c'est ça. Ça ne servait à rien d'essayer. Vous n'arriverez pas à survivre avec tout ça. Vous n'arriverez pas à réussir. Ça, c'est toujours le fondement, même depuis la fameuse... depuis 1867, lorsqu'ils ont créé le Canada, là, tu sais. Mais moi, j'ai toujours cette scène-là, les pères de la Confédération. D'un côté, tu avais les anglophones, puis de l'autre bord, tu avais les francophones. Les francophones, ils ont marré une crise de volée 100 ans avant, là, quand ils ont perdu la guerre. Là. Mm. Fait qu'à un moment donné, quand ils ont signé le Canada, ben là, le Canada, c'était français, anglais, anglais-français. C'était juste ça qu'il y avait. Ben, fait que la guerre de la Fédération, là, ils ont dit, nous autres, là, les Français, on veut garder ça. Fait que le gouvernement a dit, OK, d'abord. On va vous donner ça, le français, dans l'éducation, dans la culture, dans la santé aussi. Puis ça, c'était la partie qui voulait garder les Canadiens français. Puis à un moment donné, il y avait la question des Indiens. Qu'est-ce qu'on fait avec les Indiens? C'est là que McDonald's s'est dit, je vais m'occuper des autres. Je vais m'en occuper. Faites-vous-en pas avec ça, ça va être le fédéral qui va s'occuper de nous autres. Et maudit qu'ils se sont occupés de nous en colline. Pour ça, avec les gouverneurs provinciaux, dès qu'il y avait un Indien quelque part, ils crissaient ça au fédéral. Puis le fédéral, il disait, arrangez ça là, pour pas qu'ils nous nuisent, parce qu'ils sont nuisibles, ces Indiens. On est des parasites, on est de la vermine. Et quand est-ce que ça va arriver, la fin pour eux autres? C'était ça l'attitude qu'il y avait. On le sentait, ça, cette façon-là de relation qu'on avait avec les autorités.
Dans les années 80, Richard, les autorités, ils l'ont tellement répété que vous pouviez être, j'emploie votre mot, de la vermine, qu'il y a peut-être plusieurs des Autochtones qui ont fini par le croire et pas censé se sentir capable d'accomplir des choses aussi.
C'est ça. Puis là, on a pris le processus de l'autodéfense qu'on appelle. On se soumettait à un moment donné. Parce que les batailles sont trop dures, sont trop ardues. C'est trop difficile de toujours essayer de combattre la même chose quand tu essaies de bâtir quelque chose. Nos esprits ont été endoctrinés par une espèce de patente dans laquelle on va mourir, on va disparaître. Puis on n'était plus capable. On était des bons à rien. On était des paresseux. On était des gens qu'on ne devrait jamais encourager dans la société. On n'avait pas notre place dans la société. Nous avons été exclus depuis le début, puis ça a toujours demeuré comme ça. Puis là, on parle d'une pratique qui a duré pendant longtemps, là, des centaines d'années.
Mais vous, vous êtes là, battu, Richard.
Là, on essaie de remettre ça, puis ça n'a pas de bon sens, les efforts qu'on doit faire. Fait qu'il faut prendre ça petit à petit. Et que moi, j'ai décidé de me lancer dans la culture, dans la guérison de tout ça, essayer de me débarrasser de tout ce qui était colonisé, endoctriné, puis tout ça, puis d'essayer de penser qu'on devait déjà exister ici avant, puis qu'on parlait notre langue aussi avant.
En tant que président de la Fondation Autochtone de guérison, notamment?
Oui, c'est ça. J'ai passé par là. Mais à la fondation, aussi surprenant que ça peut être, l'utilisation de la langue et de la culture était défendue dans le processus de guérison. Et ça, on parle de 1998.
Ouais.
J'étais tellement fâché quand c'est arrivé là, à la première réunion qu'on avait eue au conseil d'administration là, pour démarrer la patente, là, puis que j'ai dit, on va utiliser la langue, la culture. Non, 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 c'est inscrit dans l'entente, ça, que on ne peut pas utiliser ces deux thèmes-là pour la guérison.
Fallait juste utiliser des psychologues blancs?
Ah, ben oui, mais ben là, trouver des moyens alternatifs. Qui nous disait, ben, Chris, c'est quoi les moyens alternatifs? Ben, c'est la culture puis la langue, voyons. Mais là, on était dans une espèce de cul de sac. Fait que, on a essayé de faire ce qu'on peut avec ces balises-là de processus de guérison. Fait que, quand j'ai sorti de là, j'ai dit, à la première occasion, je vais-tu faire la promotion de la langue et de la culture?
Moi, c'est ce que vous avez fait, Richard. Mais là, vous avez un outil qui semble intéressant. Vous venez d'être nommé comme l'un des trois experts du continent nord-américain d'un groupe formé par l'UNESCO, là.
Oui, oui, c'est ça. Je commence cette fonction-là. Et moi, vous dites que c'est compliqué. Ça n'a pas de bon sens, les protocoles qui existent avec... Tu sais, ceux qui sont membres de l'UNO puis ceux qui sont membres de l'UNESCO, ce sont des pays, là. Ces pays-là ont leurs règles, ils ont leurs protocoles, ils ont leur politique, comment intervenir à ces niveaux-là. Puis là, encore une fois, on est comme poigné dans les règles des colonisateurs là, dans cette affaire-là. Alors, il va falloir que je sois fâché de temps en temps pour arriver à percer ce petit mur-là, de défaire l'interdit là, dans certaines situations. Surtout les règles protocolaires, c'est tellement imbécile ou c'est tellement inutile des fois là-dedans. Pourquoi que nous autres, on n'aurait pas nos propres règles de protocole, tu sais?
Définies par des autochtones.
Ben oui, il faut développer ça, Alexis. Il faut penser à tout ça, ces affaires-là. Comment qu'on pourrait faire ça? Comment étaient eux autres les premiers habitants qui étaient ici? Comment ils procédaient avec les autres relations qu'ils avaient avec les autres Indiens, puis surtout avec les nouveaux arrivants? Il y avait certainement une règle de protocole qu'ils avaient là-dedans là, pour éviter des chicanes, pour éviter la guerre, pour éviter des malentendus sur,
hey Richard,
sur ces rencontres-là.
Avant qu'on se termine, j'aimerais ça que tu nous parles aussi un peu de l'organisme Minwashin, si je le prononce bien.
Ah, OK. Minwashin. Minwashin, dans ma langue, ça veut dire beauté.
Okay.
Ça veut dire beau. OK? Puis, l'aspect de notre beauté à nous, c'est la culture. Ce sont les arts, les artistes, les artisans. C'est la musique, c'est la langue aussi, par le fait même. Alors, je fais la promotion de la culture, du patrimoine Anishinaabe. Oh, en passant, juste pour souligner un peu le succès qu'on a, parce qu'on n'en a pas souvent, il y a le patrimoine des maîtres vivants qui a été décerné cette année à une Anishinaabe de Rapid Lake.
Okay.
Elle, Gracie Rapp, souvenez-vous de ce nom-là. Elle est devenue le maître de patrimoine vivant. Elle est superbe, cette madame-là. Puis elle a mérité le titre le maître de l'année cette année. Les travaux qu'on fait, là, pousser le monde à s'aventurer dans la culture, ne pas être gêné de ça, ne pas avoir peur d'utiliser la culture, la langue.
En terminant, Richard, comment tu entrevois l'avenir comme mot de la fin? Est-ce que tu penses que l'Anishinaabemowin, la culture Anishinaabe, va pouvoir survivre à toutes les offres de la colonisation?
Il y a beaucoup de si là-dedans, okay,
ouais.
qui va arriver. Oui. Il faut qu'on ait accès à des ressources dans le travail, dans le processus qu'on a. Parce qu'actuellement, quand on regarde le pourcentage d'argent qui est mis dans la culture pour les Anishinaabe, là, ben, c'est 0.003%. Là, c'est vraiment minime. Ça nous en prend beaucoup plus que ça.
Il n'y aura pas de réconciliation si on n'a pas de restitution de nos cultures, si on ne parle pas du territoire aussi, non?
Si on ne met pas de l'avant le principe des reconnaissances des droits, la reconnaissance des droits, même la reconnaissance des droits linguistiques, c'est la loi qui a été...
La loi 96,
la loi sur les langues autochtones. Ils ont oublié les petits mots, là. Le mot D-E-O-I-T dans cette loi-là. C'est le fun des lois comme ça qui exhibitent les vertus. Mais c'est plus intéressant si ça avait... Il pouvait exprimer que nous devons remettre en place les droits linguistiques pour les autochtones dans le pays. Ça vaudrait la peine.
Pensez-vous que ça va arriver, ça? Avec le gouvernement
Trudeau? Ça va être ton travail, Alexis.
Mon nom qui vient de te donner quelque chose entre les pattes, mon Alexis.
Ouais, c'est drôle quand même de voir quelqu'un avec qui on a grandi, mais aussi de le connaître par ses interventions dans les médias, sur YouTube. Ça fait quand même un peu bizarre.
Mais moi, je trouve que mon oncle a raison. Je suis d'accord avec vous, moi, mon oncle. Alexis, il y en a lourd ses épaules, il va falloir qu'il le porte.
Oui, il y en a beaucoup sur ses épaules, mais c'est à son tour.
Hey Richard, c'était super intéressant comme entrevue. Merci beaucoup, Kichi Miigwech, pour ton temps. J'espère que je te souhaite tout le succès du monde dans tes projets. C'est vraiment quelque chose d'important que tu fais. Puis je te remercie vraiment pour tous les partages que tu fais aussi.
Oui, parce que c'est important pour les Autochtones d'avoir des héros. Et c'en est un, là, Richard.
Oh oui, c'est sûr.
C'est un gars bien
ordinaire,
moi, là.
Ouais, on dit ça.
Ben oui, mais je fais pas grand-chose comme ça.
Non, mais vous le faites bien.
Miigwech, Richard.
Merci, là. À la prochaine.
Écoutez, Kwe, bonjour.
Deuxième partie de notre émission, Alexis, avec un invité qui a au moins trois caractéristiques importantes. Il est d'origine Abenaki, il est professeur d'art dramatique, c'est un TikToker, c'est un gars engagé aussi pas mal.
Un militant.
Il s'appelle Xavier Watso. Dans quel ordre on devrait parler de vos caractéristiques, Xavier?
Quoi? En fait, je pense que ça change au courant des années. Je pense que maintenant, je me dirais militant autochtone, militant Abenaki avant tout, puis après ça, ben enseignant. Puis TikToker, c'est vraiment pour le fun.
On a aussi oublié chroniqueur au journal Métro.
Ben là, oui, mais ça, c'est récent. J'oublie, même moi, je l'oublie. Un chroniqueur exact bimensuel dans le journal Métro, oui.
Professeur d'art dramatique, ça m'intrigue un peu. Pouvez-vous m'en parler un peu? On va passer aux choses plus importantes sans doute après, je sais pas.
Oui, en fait... J'ai décidé d'enseigner l'art dramatique. Tu sais, moi, je suis sorti du cégep là, direct là-dedans. C'est quelque chose qui m'intéressait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas jumeler comme deux choses là, que j'aime, le théâtre puis enseigner. Puis dans le fond, je pense que ça il y a des répercussions sur tout ce que je fais, même dans mon militantisme. Mm-hmm. Tu sais, j'ai toujours comme l'approche pédagogue. Puis ça, c'est même chose dans mes TikTok. Là, je vais peut-être au-devant des choses, mais tu sais, c'est exactement ça. J'adore tellement enseigner que je changerais pour rien au monde. Là, je continue à faire ma job, même si c'est difficile à cause des conditions.
Mais je soupçonne que votre côté militant se sert du théâtre pour servir ses engagements.
Oh mon Dieu, tout à fait. Dans toutes les sphères, justement, de mon militantisme, que ça a été soit dans la grève étudiante là, de 2012, où est-ce que je me déguisais en lapin et je faisais des chorégraphies devant la police, des trucs comme ça.
Ah, c'est vous, très... ça!
Le Rabbit Crew,
ouais.
Rabbit Crew, c'est moi. Oui, entre autres. Fait que oui, c'est toujours très théâtral dans tout ce que je fais.
Et dans tout ce que vous faites faire à vos élèves aussi, j'imagine.
Pardon?
Est-ce que vous faites faire à vos élèves aussi?
Oui, évidemment, oui, évidemment. C'est très flyé, là. Je me considère pas comme un enseignant un peu à la régulière, là. C'est toujours un peu excentrique ce que je fais.
Le fait qu'on soit militant, des fois, ça peut apporter certaines tensions avec nos employeurs. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui est venu, tu t'es fait avertir déjà par tes employeurs dans les écoles ou ton syndicat te protège bien là-dessus?
Oui, ben je me fais avertir quand même régulièrement. Là, au moins annuellement, quand un de mes posts devient viraux, puis là que le ministre me répond directement, je me fais comme... pas taper ses doigts, mais tu sais, je me le fais dire. Mais moi, je suis syndicaliste aussi, là, fait que je me suis impliqué dans mon syndicat, puis je connais bien la game, fait que je sais qu'est-ce que je peux, puis qu'est-ce que je peux pas faire, puis je sais quand je suis protégé. Fait qu'en tant qu'enseignant, justement, au public, je suis pas mal blindé.
Puis donc, là, on a parlé un peu de ta carrière d'enseignant en art dramatique. Tu es aussi un militant Abenaki. Tu as commencé par être plus un militant, on pourrait dire, de gauche avec le Rabbit Crew. Est-ce que c'est un peu le parcours de ton militantisme?
Parcours de mon militantisme. Honnêtement, je pense que la grève étudiante, ça a réveillé quelque chose en moi du côté militant. Okay. Qui sommeillait là, chez moi, là, parce que chez les Watteau, on est très, très militants.
Ouais.
Mais le côté autochtone, ça s'est réveillé au courant de ma vingtaine, avant même la grève étudiante, parce que moi, j'ai grandi à Montréal, puis mon côté comme Abenaki, je n'étais pas très proche de tout ce qui était en lien avec ça.
Mm-hmm.
Puis je me suis redécouvert. Tu sais, je me suis juste allé rechercher ce qui m'avait été enlevé. J'étais allé en voyage à un moment donné en Nouvelle-Zélande, puis j'ai rencontré une jeune fille, une jeune femme qui me disait que justement, elle faisait partie de ce qu'on appelle les deux générations perdues.
Okay.
Je me qualifie de ça dans le sens où ma grand-mère qui est allée en pensionnat, elle n'a pas pu donner à ma mère, tu sais, comme sa culture, sa langue,
ouais,
qui n'a pas pu être donnée à moi. Puis ma génération, on est en train de reconnecter puis de redonner justement à la nouvelle génération, à nos enfants, ce que nous, on n'a pas pu avoir. En fait.
Concrètement, vous faites quoi pour aller reconquérir cette langue, cette culture?
Ben, chez les Abenaki, on a le choix et on a tout perdu. Fait qu'on peut tout aller chercher.
Il y a le choix.
Oui, c'est ça. J'ai commencé avec la langue. Là, ça va faire 7 ans que je prends des cours de langue Abenaki. Parce que c'est dur parce qu'on est comme une poignée de gens à la réapprendre. Là. Des gens qui le parlent couramment, je dirais qu'il y en a peut-être 3, 4, 5, pas plus.
Ouais, puis c'est pas comme si on pouvait justement arriver à quelque part et commencer à converser avec les gens dans cette langue-là.
Exact. Quand on dit que pour apprendre une langue, c'est l'immersion la meilleure façon, ben, moi, merci tout seul, parce que c'est pas bien facile de trouver du monde qui le parle. Puis sinon, ben, il y a aussi des éléments culturels comme, mettons, qu'on ramène là, la cérémonie des premiers pas que j'ai fait vivre avec mes enfants.
Oui, dernièrement. Hein?
Ben, dernièrement, ça, c'est celle à mon frère. Là, okay. Moi, je l'ai fait pour mes deux enfants, puis là, il a décidé de le faire également.
Okay.
Je pense que c'est moi qui l'ai ramené sur la réserve. J'ai vu d'autres gens le faire aussi. Mais ça, c'est pas dans notre culture abénakise, là, c'est pas quelque chose qu'on faisait dans les dernières années. Mais je suis allé le chercher, puis on se le réapproprie aussi, puis on est en train de le redéfinir à notre façon. Fait que mes enfants, ils ont reçu un nom Abenaki lors de cette cérémonie-là. Donc, moi, j'ai même pas de nom Abenaki. À un moment donné, il va falloir que je fasse ma cérémonie des premiers pas, mon chien.
Puis, t'es sur TikTok, donc tu fais vivre, à quelque part, ton côté prof, ton côté pédagogue, ton côté militant Abenaki sur TikTok. T'as combien de followers pour le fun?
J'essaie d'atteindre le... Mon but, c'est d'atteindre le 20 000 d'ici novembre. Je suis à 19 600.
C'est quand même impressionnant. Donc, ça te fait quand même une bonne audience pour partager tes messages.
Oui, tout à fait. Puis je pense que, comme vous l'avez dit, là, c'est toutes mes facettes qui sont à l'intérieur de mon TikTok. Parce que comment fonctionne TikTok? C'est à travers les communautés. Fait que, dépendamment de ce... quoi je veux parler, je mets le hashtag en lien avec ça, puis ça va aller chercher ces communautés-là.
Mm-hmm.
Si je veux faire des posts en lien avec l'enseignement, en lien avec mon militantisme autochtone...
Oh, mais expliquez-moi, Xavier, l'éventualité de 20 000 abonnés, c'est pas 20 000 Abenaki, là? Et ça, les intéresse tous?
En fait, sur TikTok, la communauté autochtone, je dirais nord-américaine, là, est extrêmement... tu sais, serré. Tu vois un autochtone, puis tu t'abonnes, parce que tu es intéressé par son contenu.
Mm-hmm.
Puis on s'entraide ainsi. T'sais. Fait que dans le fond, moi, 66-70% de mon auditoire n'est pas canadien. Ça vient des États-Unis. J'ai des, J'ai 2% qui viennent, je pense, de la Nouvelle-Zélande avec des Maoris. J'ai des 1% irlandais, ça, je sais pas pourquoi. Fait que c'est un peu partout dans le monde. Je fais mes TikTok en anglais aussi. Fait que mon auditoire, justement, est international, on dirait.
Tu le fais en anglais, en français, mais surtout en anglais.
Oui, ben j'ai commencé récemment dans le dernier mois. Je fais des tests, voir si c'est possible et viable un compte bilingue. À date, ça fonctionne. J'ai des posts en français qui ont eu plus de 100 000 vues. Fait que ça se fait.
Est-ce qu'on pourrait pas dire, allez, je m'adresse aux deux, et à Alexis et à Xavier, on a l'impression, à t'entendre, que les nouveaux sentiers qui réunissent les différentes nations autochtones, c'est des réseaux qui sont de plus en plus, non pas à terre entre les arbres, mais électroniques dans le web, hein?
Ben, moi, 100%. Alexis, je vais te laisser y aller en premier, parce que moi, je vais dire ce que j'ai à dire là-dessus, mais 100%.
Ouais, ben c'est sûr que les réseaux sociaux nous permettent des nouveaux outils de communication qui faisaient que des communautés qui pouvaient être isolées vont faire en sorte qu'on va pouvoir se rejoindre.
Ouais, tu sais, moi je fais toujours le lien, mettons, avec le printemps arabe. Tu sais, je veux dire, on reconnecte, on se connecte justement avec des gens avec qui on n'avait pas accès, tu sais, à communiquer à travers la lettre ou à travers les déplacements, c'était beaucoup plus difficile. Puis depuis 2005, à peu près 2008, là, tu le vois là avec la montée des médias sociaux, puis le fait que tout le monde ait accès justement à ces réseaux-là. C'est là qu'il y a eu les mouvements de militants qui ont grandi à travers Idle No More, à travers Standing Rock, à travers Wet'suwet'en. Là, récemment, c'était Stop l'oléoduc 3, là, Line 3, Stop Line 3. Puis même chez nous, chez Odanak, on a eu récemment
le projet OTE.
Le projet OTE, un projet pétrolier, puis on a réussi à tuer ça dans l'œuf à travers les médias sociaux.
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu pour un autochtone qui est sur le web, sur Internet, d'avoir une espèce d'avatar, d'un signe aussi discret soit-il, qui fait qu'il identifie comme autochtone et que les autochtones pourraient ainsi plus facilement se reconnaître sur le web?
Je pense que. Je pense pas que l'idée est nécessaire, parce que je pense qu'à travers les paroles, puis les actes, puis les gestes que les gens posent, on va se reconnaître entre nous.
Puis les hashtags.
Mais c'est difficile. Ouais, peut-être à travers les hashtags, mais c'est difficile aussi parce que c'est vrai que les Autochtones viennent de toutes les formes et toutes les couleurs. Tu sais, mes enfants à moi sont blonds aux yeux bleus, puis sont autochtones, là, sont Abénaki. Fait qu'à un moment donné, on peut pas non plus se baser sur l'espèce de stéréotype caricatural qu'on peut imaginer d'un Autochtone. Fait que peut-être que l'idée est à revoir d'une autre façon, mais on se reconnaît à travers ce qu'on dit, t'sais. À travers justement nos paroles, que ce soit TikTok, ou à travers nos gestes dans la vie de tous les jours.
En terminant, Xavier, est-ce que tu penses que tu vas finir par faire ça à temps plein, être militant sur TikTok? Est-ce qu'il y a moyen de vivre de ça, selon toi?
Mon but, c'est, tu sais, moi, j'idolatorise, je suis très impressionné, là, j'admire, voilà, beaucoup Mélissa Mollène depuis. Ouais. Je la trouve extraordinaire. J'aimerais ça suivre dans ses pas, faire des émissions à Espace Autochtone, faire plus d'entrevues, être présent un peu partout dans les médias sociaux, puis peut-être vivre de ça. Mais je pourrais jamais lâcher l'enseignement parce que c'est réellement une passion pour moi. Puis TikTok, en fait, c'est pas payant. Il faut avoir 1 million de vues pour avoir, je pense, comme 100$ ou quelque chose de même. Fait que pour l'instant, c'est pour le plaisir. Puis en même temps, je sais que moi, j'ai toujours voulu changer le monde. Puis je sais que je le change à ma façon, peut-être un petit peu une goutte d'eau à la fois dans l'océan du monde, mais je sais que je fais une différence, puis pour moi, c'est vraiment important.
Quels sont les obstacles principaux à votre militantisme, Xavier?
Oh, mon Dieu! D'un point de vue personnel, le cynisme, plus je vieillis, mais là, on rentre dans des choses deep, mais honnêtement, plus je vieillis, plus je trouve ça dur ne pas devenir cynique et désabusé face à toute la fourmerie, puis la trahison du monde politique, des affaires de même.
Le double discours sur la réconciliation.
Le double discours, exact. On va dire une chose, puis faire une autre chose de l'autre côté. Puis ça, c'est mon point de vue personnel par rapport au cynisme. Puis l'autre côté, c'est comment aller chercher la population qui est ignorante. Puis ignorante, pas dans le sens, c'est genre assez simple, dans le sens où ils savent pas comment à quel point c'est dommageable faire telle ou telle chose, ou à quel point c'est comme ça manque de respect par telle ou telle chose. Fait comment aller les rejoindre, eux, qui n'ont pas nécessairement accès à un autochtone dans leur vie? C'est comme, fait que peut-être à travers les médias sociaux, c'est une façon d'essayer.
Si je te comprends bien, tu veux devenir chroniqueur dans le groupe Québécois Métiers.
Oui, exact. Appelez-moi, lâchez-moi un coup de fil, je suis disponible.
Hey, merci beaucoup, Tséoloni. Xavier.
Merci de te donner à toi. Ça a été vraiment un plaisir. Fait que, bonne journée à vous.
Au plaisir. C'était Naku Tuoneta de l'artiste Inu de Wahat Makmalotenam, Wapush Volant.
Alexis, si on est au Centre Bell, on est en territoire non cédé, whatever. Si on est au Journal de Montréal, c'est pas ça partout.
Ah non, c'est quasiment une hérésie.
Une hérésie, là.
On vient de mettre les Québécois dehors symboliquement de leur territoire.
Absolument. Dehors tout le monde. On s'en va où? On peut pas aller aux États-Unis et on porte tout notre passeport.
Tourner sur le bateau!
C'est absolument incroyable. On peut-tu essayer de faire du ménage un peu là-dedans? Je vais partir, je vais t'alimenter, mais je t'envoie pas du tout.
Ouais, ben, tu
j'ai même
pas
le temps de te poser une question, je sais que ta réponse est prête, fait que lâche-toi donc douce.
Non, mais je pense que les territoires, la question des territoires non cédés, on voit ça en ce moment avec une loupe très eurocentrique. On importe des notions de possession du territoire qui nous ont été imposées, entre autres par le droit anglais. On va commencer par définir c'est quoi un territoire cédé et un territoire non cédé. Avant la Confédération, il y a eu John A. McDonald et compagnie qui voulaient préparer la Confédération. À partir de la rivière des Outaouais, on a commencé à faire des traités numérotés. Donc,
ça, c'est vers l'ouest.
Vers l'ouest. À partir de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique, où le gouverneur à l'époque, qui n'était pas encore dans la Confédération, disait non, on ne veut pas faire des traités avec les Indiens parce que c'est à peu près comme des sauvages, c'est comme à peu près comme des animaux, donc on n'a pas à les considérer, et jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Et au Québec, on avait la théorie qui a longtemps été amenée par beaucoup de politiciens, juristes, historiens, que le passage de la couronne française avait éteint nos droits ancestraux sur le territoire. Pourtant, on l'a vu avec l'arrêt Malouf, si je me rappelle bien, c'est en 1973, où il y a eu l'arrêt des travaux de la baie James. Et les gouvernements à l'époque ont tellement eu peur qu'on a décidé de traiter de bonne foi avec les Cris, les Inuits et les Naskapis. Ce qui est devenu le premier traité moderne du Canada, la Convention de la baie James et du Nord-Est québécois. Donc, on a mis ça en place et là, on l'a vu sur le territoire du Québec, une cession territoriale de la part des peuples autochtones, de ces peuples autochtones-là, en échange de la Convention de la baie James, donc de qu'est-ce qui est à l'intérieur. Du territoire cédé. Il y a eu des compensations financières, il y a eu un partage du pouvoir. Parce que c'est ça au départ, là. Hein, je me répète tout le temps, mais c'est quoi? D'où vient le racisme? D'où viennent ces discriminations-là? C'est une question de pouvoir. Le racisme, c'est une question de pouvoir. Ici, de pouvoir sur le territoire pour affirmer la couronne britannique, affirmer la souveraineté du Canada sur ces territoires-là. Et avec les Cris, on l'a vu, la Convention de la baie James a amené justement tout le temps en échange de rentrer dans le modèle libéralisme économique et ainsi de suite. Donc, en échange de l'inondation de vos territoires, de pouvoir arnacher les rivières, que vous nous cédez votre site ancestral, on va mettre en place la Convention de la baie James. Donc,
en faisant ça, on accepte qu'il y avait un titre ancestral.
On accepte qu'il y avait un titre ancestral et on accepte qu'il soit éteint. Donc, c'est assez clair qu'au Québec, finalement, il y a des titres ancestraux qui sont détenus par des nations. Maintenant, est-ce que c'est au moment du pré-contact qu'on définit le titre ancestral, du premier contact avec les Européens? Il y en a qui disent que c'est ça. D'autres vont aussi affirmer que c'est au moment de l'établissement de la couronne actuelle, de la couronne britannique, après la conquête de 1760, pardon. Qu'on devrait établir justement quelle nation...
Parce qu'avant, avec les Français, ça n'existait pas.
Ben, il y a eu la Grande Paix de Montréal, il y avait eu des ententes, mais on a cette théorie-là de la part d'historiens nationaleux qui viennent nous dire que tout ça avait fait en sorte que les Français étaient accueillis puis qu'on se partageait le pouvoir... comme s'il n'y avait pas des objectifs coloniaux pour la couronne française.
Oui, c'est ça. Quand on se convertit, c'est au sabre et au goupillon. Je veux dire. On sert le goupillon comme le sabre.
C'est ça.
Mais les Iroquois à Montréal, quand on dit c'est un territoire iroquois qui n'a pas été cédé, tous les historiens que j'ai lus depuis 3 jours pour préparer notre rencontre disent non, non.
Ouais, tous les historiens...
Les Iroquois sont arrivés ici bien après les colonisateurs sur l'île de Montréal, les Iroquois.
Ouais, ben, en même temps, au moment de la couronne britannique, de l'établissement de la couronne britannique, c'était assez clair qu'il y avait des Iroquois autour de Montréal. On parle de Montréal comme un peu un territoire souvent de chevauchement. Je veux pas m'engager à m'embarquer ici dans le débat parce que quelqu'un comme Richard Kistabich va sûrement dire que Montréal, c'était plutôt un territoire Anishinaabe. D'autres vont dire que c'est un territoire plutôt Mohawk. D'autres même vont dire que c'était un territoire qui était protégé par les Abénakis. Donc, il y a un débat là-dessus. Mais en ce moment, c'est qui vit sur le territoire, qui vit autour de Montréal? Ce sont des Mohawks.
Actuellement autour de Montréal.
Oui, puis en 1760, au moment de la conquête, c'était des Mohawks qui étaient là aussi installés dans ces seigneuries-là.
OK. Je veux que tu réagisses à la nouvelle au niveau anecdotique. Le fait que au Centre Bell, le Canadien de Montréal annonce qu'il est en territoire iroquois non cédé. Ça te fait quoi, toi?
Ben, pour beaucoup, beaucoup d'Autochtones, c'est une marque de respect qu'on peut recevoir. Moi, je vais évaluer tout ça par rapport aux actions réelles. Les symboles, c'est important. Tu m'as souvent entendu parler, dire que le terme réconciliation, j'en avais un peu marre, parce que c'est quelque chose qui est très symbolique. Encore là, la reconnaissance territoriale, c'est quelque chose qui est un symbole. Maintenant, est-ce qu'on va transmettre ça en action réelle de décolonisation?
C'est ça la vraie raison.
Oui, c'est ça. Puis au bout de la ligne, est-ce qu'on va arriver à une vraie politique pour établir soit des traités modernes, soit redéfinir notre relation politique entre les Premières Nations puis les autorités coloniales, pour qu'on arrête de dire que c'est des autorités coloniales, puis on sorte de cette logique-là? Parce qu'au bout de la ligne, mettons qu'on est à Trois-Rivières, mettons qu'on est à Lotuk, puis qu'on reconnaît le territoire ancestral des Atikameks, ben les Atikameks continuent à voir les chargements de bois se faire tasser de leur territoire et ainsi de suite. Et c'est la même chose aussi pour les autres nations, Innus ou Algonquines. Puis moi, en tant qu'Abénaki, mon territoire qui est rendu privé à 95% puis qu'il faut que je demande à un fermier pour pouvoir aller chasser sur sa terre, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, les Abénakis? Est-ce qu'on pourrait se dire que le parc du Mont Orford puis le parc du Mont Mégantic deviennent une gestion des Abénakis, par exemple?
Ben, c'est ça que j'allais dire. Si c'était territoire non cédé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous les cédiez?
Ben, c'est des traités modernes. C'est ça qui est arrivé avec les Cris. Il y a un point d'achoppement, justement, sur ce terme-là de l'extinction du titre ancestral avec les Innus. On dit que ça fait des décennies que c'est en négociation parce que les Innus ne veulent pas voir, justement, leur titre ancestral être éteint par une loi. Ne veulent pas échanger leur titre ancestral en échange d'un traité. Et comme je me répète, je le dis souvent, ben il faut que la décolonisation, ça passe, puis la réconciliation vienne après un processus de décolonisation, de restitution de nos territoires. Il faut qu'on puisse avoir accès à des territoires pour que ce soit viable pour nos aspects culturels puis nos aspects économiques. Puis, ce territoire-là, comme on l'entendait, Richard, plus tôt dans l'émission, ben c'est source de culture, c'est source de guérison. Et comment on fait pour pouvoir avoir quelque chose qui est viable pour nous aussi là-dedans?
Est-ce que le plus grand obstacle que les Autochtones peuvent rencontrer, c'est finalement la démographie? Parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça par rapport à tous nous autres, les colonisateurs.
Oui, dans une certaine mesure, mais ça, nous autres, on fait des bébés, là. Peut-être que ça va changer.
Nous autres, on en fait moins.
On en fait moins. Si on regarde au Manitoba,
on ne peut pas tout faire. On occupe déjà le territoire. On peut faire des bébés en plus. Là.
Dans quelques années, on dit qu'au Manitoba, il va y avoir plus de 50% de la population qui va être autochtone.
C'est une lutte importante pour toi, puis tu vas l'amener aussi loin que tu vas pouvoir l'amener. Est-ce que tu ne te prépares pas aussi des déceptions?
Ah, ben des déceptions. Comme le disait un petit peu plus tôt Xavier, c'est sûr qu'on est cynique par rapport à tout ça. J'ai même cru au début du mandat de Trudeau que ça pourrait peut-être être l'ère d'un changement qui allait être sincère dans sa volonté de réconciliation. Puis tout ça, j'ai même donné une chance aux coureurs à ce moment-là, puis j'ai été déçu. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres déceptions, mais en même temps, pour mes enfants, pour l'avenir, pour la société en général. Je lisais un livre, Peau rouge, masque blanc, qui nous apprenait, qui donnait des extraits d'un chef d'année qui venait nous dire que le mode de vie traditionnel des peuples autochtones, la façon dont on fonctionnait, c'est pas non seulement une solution pour nous dans le futur, mais c'est une solution pour la société canadienne en général. Si oui. on pense à la façon dont notre société est hiérarchisée, on a avantage, je pense, à avoir l'idée du cercle pour que tout le monde soit inclus dans les décisions. Si on pense à l'environnement, au fait que la façon dont on vit est pas durable, on aurait avantage à mettre dans nos lois qu'on est obligé de voir, de prendre nos décisions en conséquence des 7 prochaines générations.
Comment tu vois les partis politiques dans un cercle? Ils vont jamais rentrer là-dedans.
Ben,
parce qu'on a peut-être plus besoin de partis politiques.
Peut-être. Il faudrait voir comment on peut faire ça.
Ben Alexis, on a encore besoin de toi pareil. La semaine prochaine, t'es là aussi. Hein?
Oui.
Moi aussi. À la semaine prochaine.
Salut.